sociale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les 15 jours sur Radio G. Salut Pablo.
Et salut Seb.
Salut Seb.
Salut Seb, salut Pablo.
Salut Paul.
Salut à tous.
Et salut Paul.
On
salut
est bien sur Radio G.
Et on n'y dit pas bien là.
Et on fait un petit coucou à Romain.
Et ben un oui, petit coucou à Florence aussi.
Et à Florence. Et à tous ceux qui nous écoutent.
Et ben oui, moi, mes deux loulous qui doivent nous écouter. Hein, et
puis, oh, mais ils auraient pu venir.
Oh, oui, voilà. Non.
Prochaine fois. Il y a des devoirs.
Il y a des devoirs encore.
Exactement. On est bien sur Radio G. On va écouter beaucoup de musique ce soir, des classiques, mais aussi de la nouveauté. Mmh. On va parler de films, on va parler de séries télé, de bandes dessinées, tout ce qu'on aime.
Bah ouais, tout à fait.
On est bien sur Radio G.
101.5 la Radio G.
Et vous êtes bien dans Bande Geek Mafia.
Alors on va démarrer l'émission avec les Fugees, Fugila. Un classique hein, du rap des années 90. On adore Lauryn Hill, on adore cet album. C'est un des meilleurs albums de rap des années 90. Il faut le dire, The Score.
Ouais.
Pablo, pourquoi ce choix?
Bah parce que j'avais envie d'un petit son old style, un petit peu vinyle. Et c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, Lauryn Hill, un petit clin d'œil. Et une petite voix féminine aussi dans cette émission.
C'est une émission un peu trop masculine, c'est ça?
Voilà.
Bon, on va essayer de faire des voix un peu plus féminines.
Voilà. Je compte sur toi.
Hein. Non, mais c'est vrai qu'autrefois, on avait Anaïs, on avait Héloïse.
Oui,
voilà, bah elle,
oui.
Elle nous manque.
Et on leur fait un coucou
et
d'ailleurs.
On leur fait un coucou. Et un
exactement.
Oh.
Allez, let's tout go. De suite, les Fugees. Dans Bande Geek Mafia sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le pont.
Ouais.
Yeah. Ooh la la, it's the way that we rock. Will we do it our thing?
J'adore le boom bap des années 90, Paul.
Boom check.
Ah, t'es chaud. Ah, mais c'est pas du tout ça aujourd'hui le rap, hein, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Musicalement, ça. Ça
on
a
le
bien
retrouve
évolué.
Dans quelques morceaux, mais ouais, globalement, c'est.
On le retrouve un petit peu chez Youssoupha. C'est mais vrai
c'est...
ou pas
c'est vrai.
C'est le mec
ouais.
qui fait celui qui s'y connaît.
Là, tu n'aurais pas pu t'avancer que ça.
terrain glissant.
Allez, cinéma.
C'était Romain.
On le remercie. Alors, Paul et moi, on voudrait vous parler du plus gros succès de 2024 au box-office jusqu'à présent. Hein. On est allé voir un petit truc en plus d'Artus, le comique, l'humoriste Artus, qui joue dans le film et qui réalise ce film. Alors, c'est vrai qu'il a dépassé d'une deux, hein, qui était déjà un record. Hein, il devient le plus gros succès dans les salles françaises. Ils étaient au sommet des marches du Festival de Cannes. Sébastien nous en parlera tout à l'heure.
Oui.
Hein, ils ont monté les marches mercredi dernier et aujourd'hui, bah, ils sont en haut du box-office. Le film est sorti le 1er mai dans nos salles. C'est un long métrage et aujourd'hui, on est à 4 331 370 spectateurs et ça continue. Alors, un petit truc en plus, c'est un phénomène. Et bien sûr, alors pourquoi et puis surtout, c'est à quel niveau? Bah, c'est quand même au niveau des grosses comédies françaises, Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin voilà, on est dans cet ordre-là. Et on retrouve dans ce film Clovis Cornillac, qui joue le père du personnage d'Artus. Voilà, Artus est le fils de Clovis Cornillac. Alice Belaïdi, excellente actrice. Et puis des pleins d'acteurs et de comédiennes handicapées. En situation de handicap, comme on dit, qui sont tous formidables, vraiment formidables. Alors, ça raconte quoi ce film, Paul ?
Ça nous raconte que les deux personnages joués par Artus et Clovis Cornillac, qui sont le père et le fils, ils font un braquage et pour la petite histoire, ils se garent sur une place handicapée, donc la voiture est enlevée par la police, par la fourrière. Et puis pour échapper aux policiers, ils se retrouvent dans ce car en fait d'une colonie de vacances avec des personnes en situation de handicap. Et donc c'est là où l'histoire démarre. Quoi.
Voilà, parce qu'Alice Belaïdi, c'est une éducatrice en fait qui encadre. Alors elle est pas toute seule bien sûr, hein, mais c'est une des éducatrices qui encadre le groupe. Et donc ils partent tous les ans l'été dans la montagne. Je crois que c'est dans le Vercors, il me semble. Moi, j'ai reconnaître le Vercors dans la Drôme. Et donc, ils sont dans un gîte rural, dans un chalet en montagne. Et donc, il y a plein d'activités qui sont prévues tout l'été, quoi. Sauf que là, il y a deux intrus, Artus et son père qui se planquent, en fait. Ils se mettent au vert parce qu'ils sont poursuivis par la police. Et Artus, à un moment donné, il est obligé de se faire passer pour un handicapé.
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, oui, oui.
Et donc, les personnes en situation de handicap vont lui apprendre à se comporter comme un handicapé.
Ah, d'accord, c'est énorme.
Ah, non, mais le film est ouais. Parce qu'en fait, en France, on a des comédies qui sont souvent un peu lourdingues et qui font pas rire. Bon. Bah là, en fait, cette fois, c'est vraiment drôle, en fait. Le film est drôle.
Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des moments où, ça pourrait être un petit peu gênant, les situations qu'on retrouve dans le film. Et en fait, c'est bien joué par Artus ou par les autres acteurs. Et donc, finalement, c'est pas du tout gênant. Et puis, rapidement, on s'attache au personnage, quoi. Aux différents personnages du film.
Oui, parce que en fait, attention, hein, c'est un film français. C'est-à-dire que c'est pas Dune 2 de Denis Villeneuve. Hein. On est sur un film à la limite du téléfilm. Ou en tout cas, on est sur Bienvenue chez les Ch'tis.
Ouais.
Voilà.
Avec une certaine légèreté. Aussi.
Avec une légèreté. Ouais, par contre, il faut pas s'attendre à une mise en scène de malade. Hein. Par contre, c'est le plus important, c'est l'histoire et les personnages.
Ouais. Voilà. Le scénario est bien fait, quoi.
Scénario est bien, l'histoire est bien. Prendre. Les personnages sont cool parce que les acteurs sont excellents. Ils se prennent pas au sérieux.
Ouais. Oui, puis on sent que, enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est fait, c'est tourné avec bienveillance, ouais, que ouais. Vraiment les acteurs ils s'apprécient. Et puis même après, on voit quand ils ont fait des plateaux télé, que ce soit dans Quotidien ou dans d'autres émissions, on voit qu'il y a quand même une proximité entre Artus et les autres acteurs. Quoi. Ça c'est agréable à voir.
Donc c'est un film où je dirais 3-4 sur 5, si on met une note.
Ouais, 4 sur 5.
4 sur 5, ouais, allez, ouais, okay, ouais. On y va. On est généreux. Ouais. Et alors donc, oui, Pablo, tu voulais poser une question.
Non, je me demandais en fait, du coup, c'est étonnant au départ quand même, ce deux malfrats père et fils déjà. Et qui se retrouvent dans
la colonie. Mais ça, c'est les pieds nickelés.
Mais c'est ça. Et donc, en fait, en fin de compte, c'est eux les. Tu disais les intrus, mais en même temps, je dirais qu'ils sont. Limite, c'est eux qui ne sont pas adaptés à la situation.
Ah, complètement. Ouais. Alors, sauf qu'Artus, lui, il va s'adapter.
Les choses s'inversent, en fait.
Artus va réussir à s'adapter. Évidemment, son père, il est complètement décalé. Mais c'est ça qui est drôle, c'est le décalage.
C'est ça, ouais.
Seb, tu voulais nous parler un tout petit peu de la montée des marges de Cannes, quand même.
La montée des marges de Cannes, oui, effectivement, ça avait posé problème, puisque dans un premier temps, justement, Artus avait poussé un gros coup de gueule, voilà. Avec juste raison, puisque en réalité c'était bizarre, personne ne voulait prêter des costumes de grandes marques justement pour les personnes qui ont participé à ce film aussi en même temps, parce que soi-disant que bon, on pourrait des raisons X, Y, mais on voit que c'est plutôt sur le fait que effectivement les marques estimaient ne pas pouvoir être mises en valeur par ces acteurs. Voilà. Hein. Encore une fois, il y a encore du travail.
Il y a de la discrimination.
Il y a de la discrimination. Et puis là, c'est ce que je regardais aussi un petit peu là, parce que j'étais en train de regarder la distribution sur
Allociné.
Ouais, sur Allociné, ou voire même on tape juste un petit truc en plus, et puis là on s'aperçoit, c'est bizarre, on a les photos des acteurs.
Ah oui, valides.
Valides.
Ouais, c'est toujours comme ça.
Oui, ouais, non, mais bon.
Mais parce qu'ils sont plus connus aussi.
Oui, non, mais même. Voilà, quoi. Et puis de l'autre côté, on a une image noire, quoi.
Alors allez voir le film.
Peut-être aussi que les acteurs handicapés, ils ont pas de page Google, quoi.
Comme ouais, non, mais même, ouais. C'est bon. Enfin,
c'est pas des professionnels.
C'est pas des professionnels, mais bon, enfin bref,
ouais,
voilà,
c'est
quoi.
Vrai que c'est. Il n'y a pas leur photo.
C'est vrai que c'est symbolique.
Symbolique. Ouais, ouais. Symboliquement, je trouve qu'on continue un petit peu dans ce problème, et je pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire pour accepter justement les personnes qui sont en situation de handicap.
Il y en aura toujours.
Alors le succès est mérité, hein, clairement.
Le succès du film.
Ouais, le succès du film est mérité.
Ah, oui.
Et pendant le film, on entend une chanson, parce qu'en fait les moniteurs chantent des chansons, forcément comme dans toutes les colos, voilà. Et puis il y a des chansons qui sont plus ou moins appréciées par les protagonistes. Et il y en a une qu'on entend plusieurs fois parce que tout le monde l'adore, cette chanson. Ouais. Moi, Paul la connaissait, mais moi bien sûr je ne la connaissais pas. Hein, c'est clic clic pan pan.
Ouais, chanson. Sorti en 2021 par un rappeur marseillais et qui avait eu du succès déjà sorti, ouais. Critiqué par partie de la population.
Par l'intelligentsia.
Mais, bon, vu le texte aussi.
Alors, on écoute Clic Clic Pampan de Yanns dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
100% la radio qui fait le point.
Thank you. c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sais que le passé c'est le passé, mais entre nous je peux pas dire ce qui s'est passé. Je voudrais pouvoir rattraper le temps pour que tu partes. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait bon sang.
Qu'est-ce que j'ai fait bon sang.
Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais je viens parano des fois quand je reste seul, dirais que je pense à toi. Pam pam, je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux de t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Je peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'étais mon chouchou, je peux pas t'effacer.
T'es la plus belle des étoiles parmi les autres, je vois. Si tu te sens seul, dis-moi, il me reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sens que tu caches quelque chose, c'est bon, me mens pas. T'es plus du tout comme avant, je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais que parfois je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Je sais que le passé, c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois, quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux de t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Et ça fait clic.
Bah dites donc,
c'est de la bonne musique.
Oh, qu'est-ce qui se passe?
Ça fait clic clic pampan.
J'ai voilà, un problème de son. Vous m'entendez?
Oui.
C'est... Ah bah dites donc, j'ai un problème de son moi. Non, ça va, vous
m'entendez? Non, ça va, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. T'as dû te baisser.
Ah, donc clic clic pampan, ouais, voilà. C'est une chanson qu'on entend.
Dans le film.
Dans le film.
Dans le film.
Et le film qui n'est pas larmoyant, qui n'est pas cucu, qui n'est pas.
Non, mais vraiment, il est bien. De toute façon, il suffit de dire.
Oui, t'as débranché le micro, le casque.
Ah, je suis comme ça, moi.
Ouais.
Bon, bah, les gars,
clic clic pampan.
J'ai fait clic clic pampan avec le micro.
C'est ça.
C'est allez, ça. En direct. Là, tout de suite, la suite. On va parler de série télé. Ouais.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio, là.
Alors, Pablo, une petite série, laquelle?
Alors, oui, pareil, une série événement, Shogun. Oui, petite série. Hein, ah ouais. Petite. Alors pour l'instant, voilà, une première saison avec 10 épisodes, peut-être une deuxième. Ouais. Alors, on se demande. En fait. On se demande si on suit la logique. Normalement, donc les réalisateurs et concepteurs de la série avaient dit on va se calquer sur le roman. Donc il y aura pas de saison 2.
C'est ça.
Mais,
trois petits points.
Mais. Ouais, donc voilà, alors, une série Shogun de Justin Marks et Rachel Kondo. Alors, une série politique et historique qui nous plonge au cœur de l'ère Edo au XVIIe siècle, qui fut l'apogée de la civilisation samouraï. Une série splendide dans son esthétique et profonde sur le plan de la réflexion. Alors, je vous lis le synopsis. Hein. En 1600, au Japon, à l'aube d'une guerre civile qui marquera le siècle, John Blackthorn, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné sur la plage d'un village de pêcheurs voisins, est porteur de secrets qui pourraient faire pencher la balance en faveur du seigneur Yoshii Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des Régents. Il réduirait du même coup l'influence des ennemis de Blackthorn. Alors les ennemis de Blackthorn, ce sont les prêtres jésuites et commerçants portugais. Les destins de Toranaga et Blackthorn seront inextricablement liés à leur traductrice, qui s'appelle Toda Mariko. Une mystérieuse chrétienne de noble extraction, dernière d'une lignée tombée en disgrâce. Tout en servant son seigneur dans ce paysage politique tendu, Mariko devra concilier sa relation avec Blackthorn, son engagement envers la foi qui l'a sauvée, et le devoir d'une fille envers son père défunt, qui deviendra le prochain shogun. Donc voilà, adaptation du best-seller éponyme de James Clavell, que tu peux parler. Hein.
Tout à fait.
Alors voilà, bon, sur le plan esthétique, les costumes, les kimonos, les armures de samouraï, les armes, les accessoires sont vraiment splendides, très travaillés, dans les moindres détails. Nous y percevons tout le raffinement de cette civilisation japonaise, des maisons nobles. Par exemple, la beauté simple et subtile d'une cérémonie du thé réalisée par un mari pour son épouse. On entre aussi dans les codes artistiques de cette époque, la calligraphie, les arbres en fleurs et leur symbolique. Ils valorisent particulièrement l'impermanence essentielle des choses. Toute chose est éphémère et prend donc toute sa valeur unique dans l'instant où on la perçoit, où on la vit, où on la dit. Un autre exemple qui est très beau est lorsque Toranaga et Mariko, alors qu'ils sont plongés dans une discussion d'ordre politique, se mettent tout d'un coup à échanger des haïkus comme des punchlines dans une battle. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Si, tout à fait. Moi, j'aime bien quand tu dis l'esthétisme. Il y a aussi l'esthétisme et le raffinement pour faire souffrir les adversaires.
Oui, aussi.
La mort est très présente.
Ah oui, extrêmement présente.
Elle est constamment présente. Bon, on est vraiment dans le Bushido samouraï.
Oui.
Et effectivement, il y a aussi... Le raffinement parfois dans la,
dans la cruauté. Dans l'art subtil de la cruauté, de faire souffrir son adversaire.
C'est ça. Alors, pour aller un peu plus loin, je peux dire que la série est d'une finesse rare. Elle fait le choix fort de ne pas doubler le japonais, qui emprunte d'ailleurs de vieilles expressions du XVIIe siècle quand même. Donc vraiment, les scénaristes sont allés assez loin. Pour garder l'étrangeté et la beauté de la langue. Comme pour nous immerger dans ce que ressent Lanjin. Lanjin, c'est le pilote anglais, Blackthorn, donc, lorsqu'il les entend parler. On est, je dirais, aussi dans la même situation d'étrangeté que lui. Beaucoup d'enjeux tournent autour des langues et de la parole. La splendide Mariko joue les traductrices pour Toranaga et Blackthorn, mais parfois, alors que nous lisons le sous-titre, elle ne traduit pas tout ou modifie la traduction. Parce que tout ne peut pas être dit tel quel, ou traduit tel quel. Nous mettons ainsi dans une sorte de connivence avec l'un ou l'autre des personnages. Il y a vraiment un choc des cultures de part et d'autre. Les Japonais traitent Lanjin Blackthorn, cet Anglais de barbare, entre guillemets, comme un occidental, effectivement c'est quand même un occidental brut de décoffrage, on ne va pas se mentir, hein, qui serait-il à la hauteur? Serait-il à la hauteur, du coup, brut de décrovage serait-il à la hauteur des codes de cette civilisation? Et petit à petit, certains préjugés vont tomber. Mais Blackthorn lui-même, un peu rustre, mais d'une grande intelligence sociale, est perdu parmi ces codes étrangers, parmi des cultures étrangères, cette culture étrangère. Parfois, ce sont les Japonais qui lui paraissent barbares, entre guillemets, toujours à lui aussi. Pour survivre, il va devoir s'adapter et apprendre la langue. Ça me fait penser en fait à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui disait que, avec raison, hein, que lorsque deux cultures rentrent en collision ou en confrontation, souvent en fait, notre premier réflexe est le rejet de l'autre, souvent réciproque d'ailleurs. C'est ce qu'il appelait l'attitude ethnocentriste, qui consiste à prendre sa culture comme le centre de référence pour juger de la vérité ou de la valeur d'une autre culture. C'est une sorte de racisme appliqué à la culture de l'autre, que l'on refuse vite de voir comme un humain et qu'on finit par rejeter dans l'animalité. La série met clairement en évidence ces préjugés et certaines évolutions des personnages sur ce point nous apprennent non seulement à s'ouvrir à la différence, mais à la respecter.
Je dirais aussi en même temps, là, je te coupe deux minutes. Alors déjà sur Anjin, il faut savoir qu'en japonais, ça veut dire étranger. Et moi, je trouve que justement cette série-là, puisque tu as employé le terme de barbare, c'est justement une bonne explication sur l'origine du mot barbare. L'origine du mot barbare, on remonte aux Grecs, nos chers amis grecs. Tout ce qui n'était pas de culture et de langue grecque était forcément des barbares. Et là, on a exactement le même cas. C'est-à-dire que Blackson, pour lui, les barbares, c'est ceux qui sont pas de culture occidentale, et les japonais, considèrent barbares ceux qui ne sont pas de culture. C'est deux cultures qui ne se connaissent pas. D'ailleurs, au XVIIe siècle, ils ont jamais eu de contact, ils ne se connaissent pas, donc ils apprennent à se connaître. Et c'est vrai que les codes ne sont pas tous les mêmes. C'est
le choc des cultures.
C'est le choc des cultures.
Et ça va se manifester, par exemple, sur la nourriture, sur le bah, sur les mots aussi.
Sur les mots, oui, sur les mots. Mais justement, ce décalage là que tu disais avec Mariko, justement montre ce décalage justement parce que elle ne traduit pas tout, non pas parce qu'elle ne veut pas traduire, mais parce que justement dans la culture, on ne dit pas tout.
C'est ça.
On ne montre pas tout.
On ne nous dit pas tout.
On ne nous dit pas tout.
Voilà, c'est exactement.
On nous mentirait. Donc voilà. Donc excuse-moi, je t'ai.
Non, t'inquiète.
Non, c'était bien.
C'est vraiment intéressant. Et alors je terminerai par dire que sur le plan politique, mais c'est assez court, les enjeux sont complexes, hein. Là-dessus, il faut vraiment voir la série. Les équilibres du pouvoir sont fragiles et les intrigues se trament dans l'ombre. Qui deviendra le prochain shogun? Évidemment, Toranaga, il forme un trio, donc avec Mariko et Blackthorn. Toranaga, le seigneur, est cerné de toutes parts. Il a beau surveiller ses arrières, sa marge de manœuvre est très étroite. Là aussi, la série est subtile. Car elle ne révèle pas toutes ses stratégies. Souvent, nous les comprenons à demi-mot ou nous les conjecturons, parfois nous les devinons ou on les reconstitue quand elles ne sont pas entièrement révélées. Voilà, je ne sais pas ce que tu penses sur ce
plan politique. Ouais, sur le plan politique, là par contre, on dit c'est le choc des cultures, mais alors politiquement, que ce soit du côté, parce que du côté occidental, côté oriental, on a exactement le même objectif, hein, c'est avoir le pouvoir.
C'est ça, ouais, là on s'y retrouve.
Là on s'y retrouve. Là,
c'est humain quoi.
C'est humain.
Humain, voilà. Trop humain.
Trop humain, voilà. Avoir,
merci
avoir
Pablo.
Plus de pouvoir.
Moi ça me donne très envie. Où est-ce qu'on peut voir cette série?
Alors, sur Disney+.
Sur Disney+. Après, ailleurs sur Internet.
D'accord. Ailleurs sur Internet.
Non, mais je ne savais pas si c'était Netflix ou Disney.
Alors, vous pouvez vous lancer aussi dans la lecture du roman.
Shogun.
Il
n'y avait pas une vieille série
ça si, ah, avec Chamberlain, c'est la première adaptation.
Bien sûr.
79, 80.
C'est la première adaptation de ce roman. Et finalement, pour ceux qui ont vu la première série, elle est complètement effacée par cette nouvelle série. Mais voilà, elles sont toutes aussi bonnes l'une que l'autre.
D'accord.
Donc, voilà.
Super.
Et le roman, il faut s'y atteler. Hein. C'est deux gros
pavés. Si vous êtes passionné du Japon, il faut lire ça.
Ah, il faut lire ça, mais c'est deux gros pavés. Et quand je dis deux gros pavé, guerre épée à côté, c'est léger.
Ok, merci les gars, c'était super.
Merci à vous.
Merci.
On va écouter un peu de musique. Pablo, tu voulais qu'on écoute Amy Winehouse avec Nas et le titre c'est Like Smoke.
Carrément.
Dans Bande Geek Mafia.
Ouais. Sur Radio G.
Pourquoi ce choix?
La radio qui fait point. Pourquoi ce choix? Parce que j'adore cette chanteuse magnifique. Allez, c'est juste un kiff.
Merci Pablo.
A script to proofread. I spit some untruth to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make a monster take. Put in your face, oh my mistake, you not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me. Get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian. Like a polygamist, with a twist. Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest, I just met. The love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls ling around a player. Yeah, 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 yeah.
I never wanted you to be my man. I just need
Medicine is a test, it's affecting my complexion, misdirecting my affection. My concerns are bill collections, the faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank Trust like I'm IEG. This fly sweet to my bourgeoisie, tall freak. She wouldn't protest with me at Wall Street. She says, no, you're so deep. I said, no, let's go through it. Historically so ruthless, feds came for Joe Lewis. She said, my man, you need to laugh sometime. Classifies me as a bull, I told her I have some wine. You colder than penguin pussy at her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy, see a penguin, he drags his ass on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster, you're in tune with just lust. I'm through with you after I crustle. Is that humorous enough? The smoke I puff, tell the car to go to Aura Funky Buddha Whiskey Mr. Mayfair. I hope I meet Simone love so she can show me love. NYC to UK, I might stay there. Everybody in the club tonight, say yeah. You know how me and Amy are straight players.
To be my man, I just needed company. Don't wanna get the better.
C'était Amy Winehouse et Nas, le rappeur Like Smoke dans Bon Geek Mafia.
Spécial dédicace à Gabi.
Un film est sorti, bah oui, les gars.
Amy.
Amy, c'est le titre du film.
Faut qu'on aille le voir et qu'on en... On le chronique prochainement.
On fait un gros bisou à Romain qui nous écoute, ouais. Auditeur fidèle et chroniqueur de talent. Il ne peut pas être là ce soir, mais on l'embrasse très fort.
Gros bisous, bienveuse.
Quelle chance. On reçoit des bisous en retour.
Ah. Ouais, alors tu demandais pourquoi, mais c'est vrai qu'en fait, sa voix me manque. Et je trouve que actuellement, en fait, on n'a pas de chanteuse qui a une telle originalité de voix.
Alors, non, je suis désolé. Connais pas Georgia Smith alors?
Si. Ah. Si, je connais Georgia Smith. Non, je connais Georgia Smith. C'est du très bon R&B. Mais c'est pas la soul et c'est pas. Je trouve qu'elle a pas le grain.
C'était mieux avant, les gars.
Mais par contre, non, pas du tout. Mais elle est partie trop vite. Et c'est vrai qu'elle nous a laissé que 3 albums. Mais voilà, mais c'était magnifique.
3 chefs-d'œuvre. Hey Seb, ouais, qu'as-tu dans ton panier BD?
Eh ben, on va continuer dans le monde japonais. Je vais parler de manga. Ça m'arrive pas souvent, mais bon, de temps en temps, ça m'arrive. J'ai des mangas, j'ai 2 mangas et j'ai une bande dessinée. Là, je fais le plein.
Cool.
Alors, premier manga qui est assez sympa.
Manga.
Il y a de l'eau.
De Makoto Yukimura, Vinland Saga. Aux éditions
hyper bien.
Kurokawa.
Alors ça, je connais. C'est sur les Vikings.
Oui, c'est génial. C'est génial.
Un manga sur les Vikings.
C'est hyper bien.
Et alors, c'est super bien documenté. Honnêtement, c'est le choc des cultures. Mais si tu regardes la série Vikings aussi en même temps, tu t'y retrouves aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc, on va suivre autour, là, puisque là, pour l'instant, il y a 24 tomes. Hein, la série est toujours en cours. Donc, on va suivre l'histoire finalement. De Thorfinn, qui est un jeune viking qui va découvrir la société et qui, au final, après bien des expériences, après 10 épisodes, 10 tomes, va se dire que finalement la violence est peut-être pas la solution.
C'est jamais la solution.
Il y a peut-être d'autres voies, et lui, l'autre voie, c'est peut-être d'ouvrir une nouvelle société au Vinland, et le Vinland, c'est tout simplement les Amériques. Et donc, on arrive sur l'installation des Vikings sur le continent américain. Donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus.
C'est pas le Wineland. C'est pas le pays du vin.
C'est pas le pays du vin. Non, c'est le Vinland. Et donc, je vous conseille parce que là, graphiquement, c'est génial, c'est marrant. C'est bien gore aussi sur certains passages. Et puis, on voit l'évolution justement de ce personnage qui va passer de quelqu'un qui est complètement un fou désaxé, assoiffé de sang, à finalement quelqu'un de posé qui cherche à négocier pacifiquement et trouver des solutions et faire en sorte que tout le monde vive en harmonie.
Waouh.
Comment s'appelle ce héros?
Thorfinn, fils de Thor.
Super manga.
C'est super. Là, franchement, c'est vraiment super.
C'est une sorte de Ragnar, Lord Brock.
Ouais, mais version soft.
Ok.
Quoi, à part à un moment où il est pas soft, mais voilà quoi, c'est
Nemi soft.
Ouais, Nemi soft.
Un Viking soft.
Un Viking soft.
Ok.
Donc voilà. Alors deuxième manga. Alors attention, là on part, c'est Yushiba qui nous propose Kindergarten Wars. Donc aux éditions Kiun Shonen. Alors là, ça c'est marrant parce que là du coup, on se retrouve avec un personnage qui s'appelle Rita, qui est la dernière recrue du Kindergarten Black, surnommée la maternelle la plus sûre du monde. Mmh. Donc, qui accueille les rejetons de l'élite du pays. La réputation de l'établissement n'est pas usurpée. Ses employés sont des criminels aguerris chargés de repousser toute attaque. Mmh. Donc, Rita elle-même est une tueuse légendaire qui, en échange d'une remise de peine, a accepté ce poste hors du commun. Mais cette experte de combat ne rêve que d'amour. Donc il y a un petit décalage aussi assez comique. Pour elle, tout assaillant est un potentiel futur copain à condition d'être beau et surtout de partager ses goûts aussi tranchés, bien tranchés, cuisine, cinéma, personnalité. Chaque adversaire est mis à l'épreuve avec un quiz sans concession où la moindre erreur est punie de mort.
D'accord.
Oula. Trouvera-t-elle l'âme sœur sur le champ de bataille de cette maternelle ultra déjantée ? Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos. Entre deux activités de toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages. Avec son mélange détonnant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten War est une véritable récré. Les cocktails Molotov en plus.
Oh la vache, c'est étonnant.
Et là pour l'instant il y a deux tomes, mais alors c'est
Battle Royale à la maternelle.
Ouais. Alors, Battle Royale à la maternelle avec du Nicky Larson. Autant vous dire que là,
c'est Nicky Larson, ça fait peur.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a du pervers. On retombe dans ton
truc. Non, mais t'inquiète pas. La maternelle, on oublie, c'est plutôt la relation. Parce que les tueurs, ils arrivent, bonjour, nous on veut. Non, mais un petit questionnaire et bang. Zoup. Donc voilà, c'est complètement.
Ah, mais j'avais raison, c'est bang.
C'est clic-clic, pan-pan.
Ah ouais, clic-clic, pan-pan.
Non, mais c'est bien déjanté. Et puis, du coup, on se laisse porté par le truc et moi j'attends le tome 3 avec impatience quand même. Donc voilà, pour l'instant il y a deux tomes qui sont sortis.
Ah, bien. Si c'est... Oh, il y a une autre BD ?
Il y a une autre BD.
Waouh, on y va, on se fait plaisir, regarde.
Alors.
Je suis un mix.
Ouais.
Ça vous plaît ou quoi ? Non, c'est pas terrible.
Non, c'est pas terrible.
Yeah. Ah ouais ?
C'est étrange, mais
c'est étrange.
Et c'est la BD.
Yes. Alors, il y a un an, j'avais présenté La Malédiction de Tirluit, puisque suite au Angers Geek Fest, j'avais rencontré justement l'auteur Guillaume Albin de La Légende de La Malédiction de Tirluit, qui s'intégrait dans une série qui est plus connue, et donc du coup, je me suis plongé dans cette série, c'est Le Donjon de Naalbuk, de Langue et Poisson. Alors, le donjon de Naalbuk, pour ceux qui aiment un peu les jeux de rôle, on se retrouve dans l'univers de Donjons et Dragons. Sauf que là, on a une équipe de bras cassés, mais alors...
Ouais, puissance 1000.
À puissance 1000. Alors, comme on dirait, voilà la quatrième de couverture. Bon, alors, vous en avez marre des trucs sérieux, des héros héroïques, des compagnies propres sur elles ? Alors, voici l'histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres. Entrez avec eux dans le donjon de Naalbuk. Merci. À la recherche de la dernière statuette de Gladulferba qui permettra l'accomplissement de la prophétie. Et donc là, ça part en sucette. Mais alors, mais grave, okay. Directement. On a des personnages qui sont complètement déjantés. Alors, des aventuriers qui sont pas si aventuriers que ça, qui sont, des Gaston Lagaffe puissance 10, qui réussissent finalement les quêtes parce que, ils ont fait une gaffe. On n'a pas fait exprès, on a glissé, chef, c'est tout ça. Et donc, c'est assez génial parce que, donc la série, elle est assez longue, hein, quand même, il y a une vingtaine de tomes. Mais c'est par cycle de 3 tomes, 4 tomes à peu près. Et donc, à chaque fois, on a des aventures qui sont totalement différentes. Et
Trilogies.
Ou des trilogies, des quadrilogies pour certains.
Des tétralogies,
voilà. Mais on retrouve nos personnages qui sont bien barrés quand même et qui sont attachants.
Ça a l'air vraiment cool.
C'est super cool. Et puis, c'est vraiment on retrouve l'esprit. Pour La Malédiction de Tirluit, effectivement, il s'est inspiré énormément de ces personnages. En tout cas, de certains personnages, les hommes légumes. Donc, on les voit là aussi
oui,
en même temps.
Les hommes légumes.
Les hommes légumes. Donc,
l'homme courgette.
Non, c'est l'homme carotte, l'homme oignon et tout ça. Et donc, c'est la terre de Fang. Et donc, moi, je vous conseille parce que là, on passe vraiment, on s'amuse.
Un bon moment. Merci beaucoup, Sam.
De rien. C'est aux éditions Claire de Lune.
Ça me rappelle une série de.
Oui, aussi.
Alors, Paul, tu voulais qu'on écoute Kemmler. Kemmler, c'est un rappeur français.
Oui.
Le titre Moi aussi. Oui. Pourquoi ce choix ?
Bah, parce que Kemmler, c'est un rappeur que j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Et en fait, vendredi 31 mai, il sort un nouvel album. Son quatrième album. Et en hommage à son père. Parce que son père, il est malade. Bon, on sait pas trop quelle maladie il a, mais c'est une maladie grave. Il est passé près de la mort et tout ça. Et donc, il voulait rendre hommage à son père en donnant le titre, en donnant le nom de son père au titre de son nouvel album, donc okay. Alain.
Okay.
Et donc, sinon, plus globalement, Kemmler, dans ses morceaux, il raconte l'amour, il raconte la tristesse, il raconte la vie et ses problèmes. Et avant donc ce nouvel album Alain, il en a sorti 3. Rose en 2018. Un album en 2020, Gris Cœur, mais qui se découpe en deux parties, parce qu'en 2000, un an avant, il y a une première partie Gris qui est sortie, avec son morceau le plus connu, qui s'appelle Ça me gêne. Et puis ensuite, dans la deuxième moitié de l'année, il y a l'autre morceau, Cœur, qui est sorti. Et pour ensuite, finalement, assembler les deux et faire l'album Gris Cœur, dans lequel, par exemple, on a un feat avec Youssoupha. Et puis, son dernier album en date, c'était en 2022, qui s'appelle « Et moi », avec un feat, par exemple, avec Kikeza ou avec Sofiane. Donc, quand même, des grands noms du rap français.
Alors là, on écoute « Moi aussi », c'est tiré du premier album, je crois.
Oui, c'est le premier morceau du premier album. Donc voilà, on Rose découvre. En 2018.
Kemmler dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
5.5.
Est-ce qu'après ça cuit, tu dis j'arrête? Après chaque meuf aussi. Est-ce que tu fuis les problèmes? Est-ce que ta meuf te fuit? Est-ce que t'as du mal à dormir le soir? Tu fous le volume de la télé à fond, mais t'écoutes pas l'histoire. Est-ce que tu regardes les gens dans leur caisse? Puis tu leur crées des vies, t'avais pas besoin d'Insta pour voir les fesses des filles. Est-ce que tu pleures en secrète devant les films et tu fais semblant de bailler? Est-ce que tu détestes ton voisin de palier? Est-ce que t'as une playlist cachée, genre blindé de chanteurs de merde, que t'as toujours bassé? Est-ce que tu mets toujours les trois mêmes t-shirts alors que t'en as plein d'autres putains, que t'as payé le prix cher? Est-ce que tu snaps ta vie pour rien quoi? Des trucs dont tout le monde se fout, oui, tout le monde sauf toi, hey. Est-ce que ça qui vire, tu dis pas à ta meuf qu'elle a méga grossi? En fait, moi aussi. Tu passes ta vie sur ton tel et tu comprends pas quand t'as plus de batterie. Est-ce que les meufs étoiles de mer, tu les appelles Patrick? Putain, yeah. Dis-moi, est-ce que tu fais des calculs de fou sur de l'argent que t'as pas? Est-ce que tu traînes en vieux survêt de capa? Est-ce que t'achètes un tas de pompes que tu ne mets jamais? Tu cherches des prénoms comme si ton gosse était déjà né? Tu dis jamais quand ça va mal, quand ça va bien non plus. Est-ce que des potes t'ont lâché pour un cul? Est-ce que tu racontes les mêmes salades à chaque go? Parce qu'une seule a baisé ton ego. Est-ce que tu préfères un FIFA qu'une bonne baisse des fois? Ou est-ce que tu boufferais des Grecs jusqu'à la crise de foi? Et pour qu'ils baissent, t'as fait des passes, des à tes potes comme si t'étais Messi? En fait, moi aussi. L'odeur du joint quand c'est pas toi qui le fume. Ça te fait moins rigoler les chutes, c'est pas toi qui filme. Est-ce que t'as du mal à choisir un coin? Quand t'as pas d'appart, pas de thune et que tu dois arracher une joint. Est-ce que tu détestes qu'on te corrige quand tu fais des fautes? Mais t'es le premier connard à le faire aux autres. Est-ce qu'en rentrant de vacances, tu mets 3 semaines à vider ta valise? Est-ce que la mort te paralyse? Est-ce que tu trouves des bonnes répliques à dire quand ça sert plus à rien? Est-ce que t'es largement plus lourd que ta masse salariale? Est-ce que tu te vénères des fois pour rien seul? Est-ce que t'as peur de rien faire de marquant avant le linceul? D'ailleurs, est-ce que tu penses à la mort aussi? Est-ce que tu raconterais ça ni à tes potes ni aux psy? Est-ce que t'as aimé ce morceau et tu t'es ressenti d'impossible? En fait, moi aussi.
Waouh, c'était Kemmler avec moi,
ouais,
aussi
dans Bande Geek
Mafia.
Ouais, ouais. Merci, Paul.
Merci, Paul, pour cette découverte.
Ouais, on a bien aimé. C'était cool.
Écoutez ces autres morceaux.
Bah, carrément. Là, tu m'as branché direct. Je vais l'écouter.
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Alors, je reviens sur les séries, parce que Florence et moi, on a vu une série sur Arte. Sur Arte, il y a de très bonnes séries gratuites hein, à voir.
Ouais, on en parle souvent.
Très souvent, on en parle, et c'est vrai que c'est de qualité. Mmh. On avait parlé de Machine, il n'y a pas longtemps, qui était oui. top. Alors là, c'est une série qui nous vient de Belgique et des Pays-Bas, qui s'appelle Red Light. Alors tout de suite, vous pensez à Roxanne.
Bien sûr.
You don't have to put on the red light. Alors bref.
Et au quartier rouge.
Et c'est exactement ça.
Ok.
Et donc, c'est un drame, hein, clairement, cette série. C'est l'histoire de trois femmes. Trois femmes qui se retrouvent prises dans le monde de la traite d'êtres humains et de la prostitution lorsque le mari d'Esther disparaît soudainement. Elles sont elles viennent plutôt de milieux complètement différents. Et ces femmes vont avoir besoin les unes des autres pour se sortir du piège dans lequel elles sont tombées. Ah oui, alors, j'essaye de pas trop en dire, mais.
Oui.
Donc, vous avez compris, le mari d'Esther disparaît. Ouais. Voilà. Donc, Esther est une chanteuse lyrique. Et donc, la police enquête sur la disparition de son mari entre la Belgique et les Pays-Bas, vous voyez.
D'accord.
Et en fait, on découvre que son mari fréquentait une prostituée, la troisième femme de cette histoire.
Ah.
Voilà, qui est jouée par Carice Van Houten, que vous connaissez tous parce que c'était la sorcière dans Game of Thrones.
La sorcière rouge.
Ouais. Et donc
ah ouais,
et ouais
sympa
sympa ouais
sympa
donc là elle joue la prostituée
hein, encore voilà. Plus sympa ah.
Alors bah si tu veux
donc, c'est le calme
ouais parce qu'en fait la série
ça
elle
chauffe,
est,
ça chauffe.
La série est très sombre
bah, Game la of série Thrones, est... c'était chaud
ouais, ouais mais clairement. Là alors là c'est pas du tout ça hein. Là c'est la série c'est l'actrice qui jouait dans Game of Thrones
oui bah oui
c'est
oui,
pas
oui,
du,
oui.
du tout la même histoire là la non. série est très sombre et très violente
ah
voilà vraiment. Alors c'est très réussi parce que c'est porté par ces trois actrices formidables alors Carice Van Houten dont je vous parlais les deux autres que bah, moi que je ne connaissais pas hein, Alina Rein et puis Maaike Neuville elles sont très convaincantes elles sont assez charismatiques elles ont des vies compliquées alors ça c'est assez classique dans les thrillers hein. Mais l'enquête policière c'est un peu un prétexte pour mettre en scène ces trois femmes fortes dans un monde dirigé par les hommes et des hommes qui sont tous très très violents quand même. Donc c'est un film qui parle d'aujourd'hui voilà qui parle de cette domination masculine de cette violence du patriarcat mais la solidarité féminine et montre qu'on peut quand même essayer de s'en sortir. Donc c'est parfois un peu glauque, voire un peu poisseux, mais finalement c'est étonnant, c'est bien interprété, c'est bien filmé, c'est sans concession quoi.
Voilà. C'est girl power.
Ouais. Non, pas du tout.
Pas du,
alors
non.
Je dirais pas ça du. Non, en fait, c'est, non, c'est même pas ça en fait.
Ah non, bah
non, c'est vraiment, je sais pas. Vous voyez, c'est.
Ouais, tu disais une solidarité.
Une solidarité. Puis,
ouais, mais elles se.
Une elles compréhension.
Sont...
peut-être.
Bah, en fait, c'est compliqué. Parce que elles viennent de milieux tellement différents qu'au départ, par exemple, la prostituée et la chanteuse lyrique, elles se comprennent pas, quoi.
Ouais,
c'est
bah
vraiment.
C'est impossible, c'est deux mondes de.
Ouais. Sauf que face à la violence des hommes, elles sont obligées de s'allier. C'est des alliés objectifs, quoi.
Voilà.
Et ça nous montre, justement, que. Voilà, si on n'a pas de solidarité, on peut pas s'en sortir, quoi. Et il y a aussi des hommes qui sont corrects, hein, dans la série, mais pas tant que ça, en fait.
Pas tant que ça. Ouais, ouais, ouais.
Et il y a ceux qui sont aussi pas violents, mais qui sont plutôt lâches, quoi. Ou traître, ou voilà.
Une série très réaliste, du coup. Alors.
Ouais, une série très réaliste qui nous tient en haleine et qui vraiment qui vaut le coup, quoi. Donc
ouais,
ça s'appelle Red Light. C'est sur Arte. Il y a une saison pour l'instant, 10 épisodes. Voilà, très très bon, très très bien.
Sympa,
je vous conseille.
Ouais.
Un peu de musique, un petit Stupéflip hein, parce qu'on est des gros fans de Stupéflip. Ça vous dit d'écouter Gaël?
Allez, vas-y.
C'est parti. Vous êtes dans Geek Mafia.
Sur Radio G.
c'est Gaëlle de Stupé Flip.
Elle s'est pas loin de Capitaine Flamme quand même.
Et nous continuons notre voyage.
Oui, l'enchaînement est pas mal.
Cérébral. Garo
d'ailleurs. Ah, Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G. On est bien sur Radio G.
Ben ouais.
En aparté, on parlait de Furiosa, un film Mad Max. Pablo, tu avais adoré Fury Road.
Ouais, je trouvais que c'était quand même un des meilleurs films de 2015, je crois.
Très, très bon film. Ouais, et donc là, vient de sortir au cinéma le film Furiosa, qui raconte le parcours de ce personnage féminin qu'on voit dans Fury Road, qu'on découvre dans Fury Road, qui s'appelle Furiosa. Est-ce qu'on a envie d'y aller?
Bah oui, bah, surtout que dans Fury Road, le méchant, il m'avait vraiment marqué.
Ouais. Ah oui, il est là, en plus on le retrouve.
Là, si on peut le retrouver.
Ouais, c'est marrant. En fait, il aime bien les méchants.
Il aime bien les méchants.
Quel était ton point de vue? Parce que c'est vrai que nous, on connaît. Bah, nous, on a vu les trois
premiers Mad Max avec Mel Gibson.
On est dans les années 80-90.
Et Tina Turner.
Oui, dans les trois.
Du coup, je peux pas trop comparer.
Non, mais je veux dire, toi, quand t'as découvert Mad Max Fury Road, ça t'a accroché, quoi.
Ouais, ça m'a accroché. Bah, en plus,
il est top.
Il est top. Et puis, bon, il y a cette histoire aussi de l'eau, là. Parce que, il y a pas d'eau. Enfin, j'ai un peu oublié l'histoire, mais il y a pas d'eau.
Il y a un message féministe, il y a un message écologique.
Ouais, et donc, ça, un message écologique, bah, c'est actuel. Donc,
mais est-ce que ça vaut Speed Racer? Parce qu'avec Paul, on a revu un film qu'on adorait quand il était petit, c'était Speed Racer.
Ouais.
Des frères qui sont maintenant les sœurs Wachowski, qui ont fait Matrix.
Ouais, bien sûr.
Oui, alors Matrix, oui.
Non, parce que j'y pense, parce qu'en fait, dans Mad Max, il y a toujours des courses de bagnoles, enfin des poursuites en voiture. Ouais. Et dans Speed Racer, bah, c'est que ça.
Oui, c'est que ça.
Alors moi, ce que j'avais adoré dans Fury Road, c'était cette espèce de guitariste accroché au camion. Je trouvais l'idée
visuellement, c'est
quoi.
Énorme.
C'était énorme. C'est le mec qui balance des riffs comme ça. Tu te dis, mais ça sort d'où? À quoi ça sert?
Ouais, puis ça fait des grosses flammes.
Ouais.
Les gars, on va être obligés bientôt de se quitter.
Ben, je crois bien.
On écoute un morceau de musique parce qu'on aime les années 80, Seb.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes?
Maniac.
Mais et pourquoi
Michael
ce choix?
Michael Cimbello.
Pourquoi ce choix?
Parce qu'il n'y a rien de mieux.
Pour faire la fête ou quoi?
Ouais.
Tout à fait. Allez.
Radio G105.
Into life, she has danced into
80, les gars.
Eh oui, mais ouais. C'était pas mal aussi en même temps.
Ouais, ouais, bah, y avait du bon quand même.
Donc, c'est la musique du film Flashdance. Un gros succès des années 80, un film sur la danse, bien sûr, comme son nom l'indique, où on entendait Irène Cara chanter What a Feeling.
Mm. What a feeling.
Alors, les gars, c'est la fin de l'émission. Merci, bah ouais, Seb, merci sympa. Pablo, merci Paul.
Merci à tout le monde.
Et merci aux auditrices et auditeurs.
Ah, merci.
Ça fera plaisir de vous retrouver bientôt dans 15 jours.
Oui, normalement, dans 15 jours, on sera tous là. J'espère que Romain aussi.
Et ouais.
Et on vous laisse avec Rudy's Back.
Rudy's Back, bien sûr. Allez, la suite. Allez, alors, ciao, à bientôt.
Ciao. À bientôt, salut.
À bientôt, salut. Ouais.
www.radio-g.fr